Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre dixième pour cette sixième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour notre invité Didier Mouly.
Bonjour Jean-Claude, bonjour Michel.
Maire de Narbonne, avec qui on va faire une troisième partie. Alors évidemment, bon, on va parler de plein de choses. Ça va sur les sujets, j'imagine, s'imposent d'eux-mêmes et ça ne surprendra probablement pas grand monde. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure. Mais il y a un sommaire, comme chaque semaine. Nous commencerons par ce que tu appelles, Michel, l'insondable pessimisme français, qui se manifeste d'ailleurs sous de multiples formes.
Surtout en ce moment, quand même.
Oui, en ce moment, oui, mais pas seulement, mais enfin, oui. Et en deuxième partie, alors, à la dernière séance de l'aglo, c'était pas rigolo, dis-tu. Et puis, coucou, je m'appelle Roland Courteau. Alors bon, c'est un petit peu énigmatique comme titre, mais nous verrons de quoi cela retourne. Allez, je souffle, petit truc là, LGV.
Oui.
Alors, tout d'abord, le pessimisme à la française, oui, on adore ça, en tout cas faire semblant.
Oui, Jean-Claude, mais il se trouve que dans les circonstances, cette étude, enfin, ce portrait social plutôt de la France qui vient de sortir, là, il est tout chaud, en fait, il est sorti il y a combien, 48 heures, même pas, qui est fait par l'INSEE, hein, régulièrement, vient de sortir, et puis, ben là, il met encore une fois, en fait, en évidence l'écart abyssal, en fait, hein, qu'il y a entre certaines données objectives, hein, quant à la situation sociale, en fait, hein, et des Français, et la perception qu'ils s'en font. Alors, je vais quand même, pour préciser ma pensée, donner quelques indications, quelques chiffres, quelques idées qui montrent bien cet écart et les conséquences de cet écart sur la manière dont les politiques, effectivement, et les médias se déterminent par rapport à cette situation et qui posent un certain nombre de problèmes. Prenons quelques indicateurs. C'est ce que fait d'ailleurs l'INSEE, hein, qui prend des indicateurs de mobilité sociale et de niveau de vie, par exemple, et qui montre que, contrairement à cette idée reçue, la première, hein, la situation des Français depuis la fin des années 70 s'est améliorée considérablement,
par exemple. Situation financière, on va dire.
Mais avant d'arriver à la situation financière, ne serait-ce que... tu sais, il y a souvent cette expression-là, hein, l'ascenseur social ne fonctionne plus en France. Ben, c'est faux. Ce portrait démontre le contraire. L'immobilité sociale, puisqu'il y a de ça, l'ascenseur social, ne concerne qu'une minorité de Français seulement. En 2015, ce sont les chiffres de l'INSEE, c'est pas les miens, hein, 65% des hommes et 71% des femmes occupent en effet une position sociale différente de celle de leur père ou de leur mère pour les femmes.
Oui, mais différente veut-elle dire supérieure.
Différente.
Hein. Oui, différente, ça ne veut pas dire forcément supérieure.
Ah non, mais on va voir après la situation des Français au plan financier, qui en découle. Hein. Et cette mobilité sociale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle était de moins en moins liée à l'évolution de la structure des emplois, qui est le plus souvent ascendante, 28% pour les femmes et 15% pour les hommes. Hein. Et que... pour les femmes, pardon. 40% pour les hommes et 12% pour les femmes. Enfin, j'exagère un petit peu. De plus, la fluidité sociale, ça c'est la manière de changer, entre générations, hein, on monte en fait, ou on descend ou on change de métier. Puis la fluidité sociale, elle, par contre, c'est-à-dire les chances relatives d'accéder aux différentes catégories sociales, elle aussi a fortement progressé. Par exemple, on en vient effectivement à la question que tu posais, en 77, les chances relatives de devenir cadre plutôt qu'employés ou ouvriers qualifiés, était 28 fois plus élevé pour les fils de cadre que pour les fils d'employés et d'ouvriers qualifiés. En 2015, c'est pour répondre à ta question, Jean-Claude, ces chances des fils de cadre demeurent nettement plus élevées, mais l'écart, ce qui importe, s'est fortement réduit. Ce sont 12 fois plus élevées, en fait, ces chances d'accéder effectivement à des fonctions de cadre pour des fils d'ouvriers. Hein, puisqu'on est passé d'un surcroît de chance de 35 pour les filles de cadre à un surcroît de chance de 8 en 2015. Si on en vient maintenant en termes de niveau de vie, Jean-Claude.
Alors, quelques
l'évolution,
chiffres,
là aussi, est très nette et favorable. Le niveau de vie médian, c'est-à-dire la moyenne, quoi, hein, avant redistribution, a progressé de 68% en euros constants, hein, de 75 à 2016. Et contrairement à ce que l'on croit aussi, cette progression de ce niveau médian ne s'est pas faite au détriment des plus pauvres, hein, et ne s'est pas conséquemment, hein, traduit par des inégalités de niveau de vie, puisque ces inégalités ont fortement, elles aussi, décru de 75 à 2000, pour réaugmenter à partir de 2005 et retrouver dans les bonnes 90. Ça veut dire tout ça que, Jean-Claude,
oui, donc,
sur le bon. Plan, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, face à ça, les Français, eux, tels qu'ils sont, sondés, etc., considèrent que ben tout ça, bon, leur niveau de vie s'est dégradé, l'ascenseur ne fonctionne pas, etc., etc. Hein, par rapport à 1979, par exemple, la part des Français pensant que leur niveau de vie s'améliore a été divisée par plus de 2. Ce qu'ils considèrent, alors que je viens de démontrer qu'à l'inverse, elle a augmenté.
Oui, donc c'est bien un état d'esprit qui a changé à ce niveau-là.
C'est bien la représentation que se font les Français par rapport à une réalité objective qui elle, n'est pas du tout, effectivement,
alors,
celle qui est ressentie.
Le problème. Pourquoi,
alors, on n'a pas d'explication à ça, forcément, mais le problème qui se pose du côté des politiques, eux, en fait, hein, qui ont besoin de la confiance des Français, et surtout des électeurs, ne serait-ce que pour être élus, hein. C'est qu'il est très difficile d'aller contre cette perception qu'ont les Français. Et donc la tendance naturelle, si je puis dire, et pour ne pas dire quasi professionnelle des élus, est d'aller effectivement dans le sens du ressenti des Français plutôt que dans la réalité objective de la situation du pays telle qu'elle est.
Ceux qui faussent les pistes, en quelque sorte.
Alors évidemment, parce que
s'ils faussent la problématique.
Parce que si elle a l'inverse, effectivement, de ce ressenti, il se ferait clouer au pilori par les médias, notamment, qui, elles aussi, je parle des médias, hein, fonctionnent sur ce modèle-là. Bon, les médias ne vont pas dire qu'effectivement, les trains arrivent à l'heure, fait que les Français...
Oui, mais les médias, justement, on va peut-être essayer de... Les médias n'y sont peut-être pas forcément pour rien dans la façon de gérer les choses.
Mais pour raison simple, mais un peu comme les politiques, d'une certaine manière. Les médias audiovisuels, eux, elles, plutôt, quel est leur but, quel est leur métier? C'est de conserver au maximum leurs auditeurs, voire en gagner plus. Oui, comme disaient les spectateurs, d'ailleurs, pour faire rentrer effectivement la pub, effectivement, des recettes. Donc, on est dans un système...
De faire du chiffre, mais purement du chiffre.
Alors, on est dans un système, effectivement, où les politiques, et de manière générale, je ne dis pas les politiques en particulier, notre invité n'est pas visé, par mon propos, je vise, une situation générale, en l'espèce. De sorte que les politiques et les médias entretiennent effectivement cette boucle négative qui est fondée sur le ressenti des Français plutôt que la situation réelle effectivement de la France, et que de ce cercle vicieux on voit pas très bien comment on pourrait s'en sortir, sauf miracle Jean-Claude, sauf miracle qui verrait arriver un homme politique qui courageusement dirait mais messieurs les Français,
l'homme providentiel,
tort, effectivement
l'homme providentiel en France, on l'attend, on le veut, et dès qu'il est arrivé on fait tout pour le blackboard et le foot de...
Laisse-moi terminer. Je voudrais dire que c'est peut-être utopique, mais il faudra bien quand même qu'un jour, cet écart, d'une manière ou d'une autre, soit clairement exposé par un homme ou des hommes politiques, si on veut vraiment sortir de cette boucle et de ce cercle vicieux qui nous fait entrer dans des situations, et dans des logiques totalement perverses.
Ouais. Moi, je pense qu'on demande peut-être beaucoup aux hommes politiques. À propos des médias, il faut quand même rappeler, alors là, c'est pas du pessimisme, c'est un chiffre. L'immense majorité aujourd'hui des chaînes et de télévision et de radio nationale sont tenues par 5 ou 6 familles de milliardaires, pas des hommes de médias et des journalistes et des gens qui aiment ça, des milliardaires.
Cela dit, Jean-Claude, c'est un argument qui ne tient pas trop effectivement à la route, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous les journalistes de tous les journaux sont des supplétifs des milliardaires en question. Ce qui, à l'évidence, quand on lit la presse de manière attentive, comme j'essaie de le faire, en tout cas avec le regard critique, n'est pas forcément le cas. Il suffit d'ailleurs de lire la nôtre de presse locale et régionale, qu'on ne peut pas dire qu'elle soit à la main de milliardaires, même si on trouve que M. Baillet, Parti radical de gauche,
n'est pas forcément au niveau national.
Oui, mais de la même manière, le raisonnement aussi vaut au plan national. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les derniers événements, pour te rejoindre d'une certaine manière, Jean-Claude, les derniers événements auxquels nous avons assisté démontrent qu'effectivement, on est loin d'en prendre le chemin et qu'au bout du compte et au bout du bout, les véritables, effectivement, personnes, les catégories sociales qui sont dans la détresse et dans la difficulté, elles n'ont pas voix au chapitre et qui ne sont jamais effectivement traduites par de ces voix dans les médias et chez les politiques, elles,
voilà. Ceux-là, ils ont droit au pessimisme.
Ils ont droit, effectivement, au pessimisme.
Et on leur reconnaît
et ceux-là
une légitimité.
Et ceux-là, effectivement, ne sont jamais, effectivement, traités comme ils devraient l'être.
On marque une première pause.